Ismael Ocasio Oriental. J'ai réduit totalement ce qui...
Moi, c'est l'île de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'appuyer de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole en ce début de semaine. L'envoyé de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs appelle le gouvernement congolais à libérer des détenus politiques en vue de faciliter le dialogue. Le Front des démocrates FDE, une plateforme de l'opposition politique, demande aux facilitateurs du dialogue national Edem Kodjo d'accélérer les travaux de mise en place du comité préparatoire en vue de gagner le temps. Une contrainte qu'évoque également la majorité présidentielle qui se dit prête pour aller à ce dialogue. Entre-temps, le rassemblement avec en tête de son comité de sages le président de l'UDPS persiste sur les préalables posés pour aller à ces assises. Au regard de ces divergences, certains observateurs redoutent que ces blocages ne plongent le pays dans une grave crise politique. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Hippolyte Kapanga est à la mise en onde, Piro et Lamégé à la réalisation standard de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Honorable Martin Fayoulou, vous êtes le président de l'FID et vous êtes membre de l'opposition politique et aussi membre du Rassemblement. Aujourd'hui, certains observateurs, au regard d'ailleurs des divergences qu'on observe sur la scène politique, redoutent que le blocage aujourd'hui ne plonge le pays dans une grave crise politique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Mais oui, s'il y a un blocage, effectivement... le pays va être plongé dans une grave crise politique. Mais il faut savoir, ces blocages viennent d'où? Pourquoi ces blocages? Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Il est clair que chaque institution de la République doit faire son travail. Et ce blocage ici est dû au fait que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas fait son travail. Parce que, d'après l'article 211 de la Constitution, cette commission est chargée de l'organisation du processus électoral, du début à la fin, c'est-à-dire de l'identification des électeurs, enrôlement des électeurs jusqu'à la proclamation de résultats provisoires. C'est le rôle de cette organisation. Mais qu'est-ce que la CENI a fait? En plus, la Constitution est très claire. La Constitution dit dans son article 73 que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, je continue encore parce que cette constitution, notre constitution, elle est entière et il faut l'apprendre dans son entièreté, dans son ensemble. La constitution, dans son article 69, dit quoi? Elle dit ceci, je cite, « Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution. » Paragraphe 3, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Alors, on peut continuer, mais à ce niveau-là, il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. La CENI est une institution de la République. La CENI émarge, donc il y a une dotation qui est faite par le Parlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vérifié que ces diverses dotations, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces dotations ont été faites? Est-ce que ces dotations ont été suffisantes? Est-ce que ça a été décaissé par les gouvernements? Donc, il y a une responsabilité. Alors, nous, au niveau de l'opposition, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Depuis 2012, nous avons réclamé la révision, ou en tout cas d'abord l'audit du fichier électoral, pour savoir si ce fichier électoral était correct, si on pouvait continuer avec ce fichier électoral, oui ou non. Nous avons exigé cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait d'audit du fichier électoral à temps. Et après, nous sommes allés plus loin, nous avons dit maintenant c'est fini. Il faut un enrôlement de tous les électeurs pour qu'on puisse construire un fichier efficace, un fichier correct. Nous avons réclamé, nous avons fait des meetings, nous avons fait des pétitions, nous avons, distribué des leaflets partout. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation.
Alors, à vos propos, en évoquant quelques articles de la Constitution, on se rend compte que vous reconnaissez qu'effectivement, il y a eu des problèmes au niveau de la CENI. La CENI, selon vous, est responsable de ce blocage. Mais alors, au niveau de la majorité, on évoque également cette question des contraintes techniques évoquées par la CENI. Voilà ce qui justifie l'organisation du dialogue qui constitue, selon les uns et les autres, une voie royale pour débloquer la situation.
Non. La majorité, c'est une fuite en avant. Et c'est cette majorité-là qui instrumentalise la CENI. Parce qu'à chaque fois que nous nous posions de problèmes, et c'est la majorité qui répondait à la place de la CENI. Quelles sont ces contraintes techniques? Il faut qu'on nous le dise. Mais la première contrainte, c'est les ressources, c'est l'argent, c'est le budget, c'est la dotation. Est-ce que cela a été fait? Le Parlement a joué, a rempli sa mission, oui ou non? Est-ce que le gouvernement a rempli la sienne? Est-ce que la CENI, qu'est-ce que la CENI fait depuis? Il y a eu des institutions qui sont venues ici, il y a eu des réunions, la mission d'observation de l'Union européenne est revenue pour analyser, évaluer ses recommandations après les élections chaotiques de novembre 2011. Mais nous étions là tous, on a demandé à la CENI où est le fichier électoral. Où est le fichier électoral? Nous ici, nous avons fait une pétition contre l'abbé Malumalu, paix à son âme. Et l'abbé Malumalu avait dit, même si 80 millions de Congolais signaient cette pétition, il ne changera pas, il ne démissionnera pas. Mais pourquoi cette pétition? Parce que l'abbé Malumalu avait refusé de faire l'audit du fichier électoral, parce qu'il avait refusé de commencer les travaux à temps. Day one, dès que les élections étaient terminées, la CENI devait entrer en scène pour faire son travail régulier au jour le jour, pour s'assurer que en 2016, il y aura élection. Parce que dans notre constitution, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place pour la non venue d'élection. Ça n'existe pas.
Voilà. Alors, le rassemblement, avec en tête de son comité, de sages, le président de l'IDP, continue à persister sur les préalables posés pour aller au dialogue. Est-ce que ce n'est pas là une responsabilité aussi de votre part de ces blocages?
Non, ce n'est pas. Le blocage ne vient pas de nous. Nous avons dit que nous étions d'accord pour que les Congolais et les Congolaises se parlent dans un cadre. Et ce cadre a été fixé par la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons exigé qu'il y ait un médiateur de l'ONU pour résoudre ces problèmes. Et finalement, l'ONU a passé la balle à l'Union africaine et nous avons dit à l'Union africaine, les comportements de M. Kodjo, d'abord la désignation de M. Kodjo n'était pas orthodoxe. par un communiqué de Mme Zuma qui ne faisait ni référence à la résolution 2277, ni référence à la constitution congolaise. Un mépris total. C'était comme un groupe qui était là pour aider M. Kabila. Et nous avons fait des propositions constructives. Nous avons dit, écoutez, pour aller de l'avant, nous voulons qu'il y ait un panel. Un panel composé de membres de la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF, certains pays importants comme les États-Unis et les envoyés de ces pays comme l'envoyé spécial de Grande-Bretagne. Donc un panel qui va réunir le décan autour d'une table et aborder les questions selon la résolution 2277. Parce que cette résolution est claire. Cette résolution dit que les Congolais doivent se parler pour voir comment organiser les élections en respectant leur constitution. Très clair. Donc, nous avons fait un effort, nous avons fait des efforts, et jusqu'à aujourd'hui, n'oubliez pas, JR, que c'est nous qui avons exigé les dialogues
en 2011,
en 2012, le 9.
Mais vous n'êtes pas parti en concertation.
Non, parce que, et voyez-vous, quand on discutait, on exigeait les dialogues. M. Kabila nous a imposé les concertations avec son ordonnance du 26 juin 2013. Nous lui avons dit non. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous avons dit non à ce dialogue de M. Kabila, ou en tout cas ce qu'il a appelé les concertations nationales. Nous avons dit un dialogue pur et simple, et nous avons défini pour nous les termes de référence de ce dialogue. Il n'a pas voulu, il est parti dans ses concertations avec un peu plus de 700 résolutions. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les conclusions de ces forums?
Alors, vous avez récusé Edem Kodjo, la communauté internationale continue à apporter leur soutien aux facilitateurs. Finalement, vous vous regardez en chef de faïence, et le temps passe, la contrainte du temps.
Mais ces messieurs, parce qu'il n'y a pas de dames, donc ces gens qui des groupes, ce qu'ils appellent le groupe de soutien, je crois qu'ils veulent imposer un langage de sourds. Nous avons été avec cette communauté internationale le 9 juillet à l'hôtel Tangla à Bruxelles pour discuter. Les Nations Unies étaient représentées par M. Saïd Djinnit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. L'Union africaine était représentée par M. Chegui et l'Union européenne par M. Koun Verbaak. Et nous étions là sous la présidence du président Hakim Tshisekedi, du président du Conseil des sages du Rassemblement. Nous avons dit à ces messieurs que c'était simple. Nous devons aller, nous tous, là, et vous et nous, nous nous mettons d'accord
pour aller au dialogue.
Pour aller au dialogue selon la résolution 2277. Et nous réitérons nos positions prises à Genval, non au dialogue convoqué par l'ordonnance du 28 novembre de M. Kabila. Nous sommes d'accord. Et nous leur avons dit ceci. 1. Il faut que ce groupe de soutien soit transformé en groupe de facilitation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance à M. Kodjo. J'ai démontré, les gens ont fait des démonstrations dans votre radio ici, et je n'ai pas fait des démonstrations sur donc la non-confiance à M. Kodjo. 2. Nous avons dit que ce groupe de facilitation doit être en même temps préparé, et donc comité préparatoire. On n'a pas besoin de comité préparatoire. Vous rapprochez les deux camps, c'est-à-dire la mouvance kabyliste et le rassemblement, pour savoir ce qu'ils veulent. Et c'est très simple, nous savons ce que nous voulons. Et vous élaborez un ordre du jour, vous proposez aux deux camps et vous rapprochez le point de convergence, le point de divergence, et vous convoquez ces pourparlers. C'est ce que nous appelons pourparlers ou table ronde. Et on se met d'accord, on discute. Et nous sommes convenus. Et troisièmement, nous avons dit, mais écoutez, il y a des préalables. Et les préalables, c'est la libération des prisonniers politiques, c'est l'arrêt de poursuites judiciaires, des tracasseries judiciaires, fiscales et autres, et de mettre fin au dédoublement des partis politiques et libérer les médias. Nous avons dit ça, c'est essentiel, parce que nous voulons voir
tous les Congolais qui sont susceptibles de participer à ces pourparlers, bien que là, où est-ce que vous mettez Jean Johnny Longala? Où est-ce que vous mettez Joseph Ngoy et les autres, les jeunes de la Lucha? Où est-ce que vous les mettez Fred Bauma? Où est-ce que vous mettez Isma Kwambala? Donc ça, c'était très important. Et quatrièmement, nous avons dit, oui, nous allons aller à cette table ronde, à ces pourparlers, mais pas avant le 1er août. Parce que le 31 juillet, nous avons notre meeting. Et voilà. Ça a été entendu et acté.
Mais après, c'était autre chose.
On avait la provocation de M. Koudjoua.
081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous ouvrons le débat avec vous, Maître Trésor Likonda, vous êtes à Kinshasa, Maître Omar également de la ville de Kinshasa et Alain Kolesi. Maître Trésor, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour hier et bonjour à l'invité, merci Martin Fayou.
Alors, Maître Trésor, au regard de ces divergences entre la majorité et l'opposition, ainsi que d'autres acteurs politiques, certains observateurs redoutent que ce blocage ne plonge le pays dans une grave crise politique.
Oui. Ils ont raison, puisque si on n'y prend pas garde maintenant, demain, ça risquera d'être difficile, puisque la question prend une ampleur assez compliquée et complexe. Je crois que en 2015, au cours de cette émission, j'ai été le premier à dénoncer l'histoire de l'accord cadre lorsqu'on parlait de bons offices concernant les dialogues. Que l'accord cadre n'avait pas prévu les bons offices pour les problèmes qui concernent les Congolais et les bons offices ne parlaient et l'accord cadre ne parlait pas non plus des dialogues mais plutôt de la réconciliation nationale et je crois que dans ce sens là on avait envisagé les dialogues pour trouver une réconciliation nationale par rapport à toutes les questions divergentes. Aujourd'hui nous sommes en face d'une autre question. Les facilitateurs de l'Union africaine et qui est arrivé pour peut-être répondre à cette question des bons offices trouvent aussi des blocages. Les opinions divergent chaque jour, chacun donne une position, demain il change. Je crois que dans cette allure-là, on risquera de donner raison à ceux qui ont dit que le pays va vers un chaos. Mais il faut maintenant agir, puisque il y a également la résolution 2277, l'invité a fait allusion à cette résolution. Là aussi, je me suis posé la question, est-ce moi qui ne lis pas bien la résolution ou il y a des choses miraculeuses qui sont cachées, puisque nulle part je n'ai vu où on a clairement dit que les dialogues doivent être convoqués par un étranger. Je n'ai pas vu ça. En tout cas, si l'invité connaît ça, il peut lire ça, s'il a la résolution sur place, il peut lire et nous éclairer par cette question, puisque la population est en train de suivre les débats à travers les médias. La résolution 2277, mais nulle part on a exigé que les dialogues soient convoqués par un étranger. Alors maintenant, comme chacun a raison, et que nous n'avons pas nous aussi raison de contester ce que chacun donne comme position, moi j'ai suggéré que de part et d'autre, on puisse trouver une autre issue. Cela veut dire qu'au lieu d'aller directement à ces dialogues, qui peut-être ne sera pas national et exclusif, compte tenu des positions des uns des autres, que l'on puisse peut-être envisager un pré-dialogue pour essayer d'éradiquer ou de vider tout le préalable de l'IDPS, de la société civile, de Marcel Fayou et ses pairs, et la majorité aussi à sa position. Dans un pré-dialogue, on pourra débattre de tout ce préalable.
Mais quel sera le travail du comité préparatoire?
Mais le comité préparatoire, jusqu'à présent, n'est pas mis en place. Il y a encore une discussion autour de ces comités. Déjà, il y a un groupe de soutien qui est contesté. Et le facilitateur de l'Union africaine a du mal pour mettre en place ces comités. Je pense que certaines questions sont déjà vidées. On ne peut plus débattre de ces comités préparatoires puisque ça n'a plus de sens. Le sens à donner maintenant, c'est au préalable, parce que ce sont ces préalables-là qui sont importants pour la tenue du dialogue. Alors, on peut parler de ces dialogues. Initiés avant la tenue du dialogue.
Oui, mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les préalables posés par le rassemblement tiennent la route en ce moment parce qu'il y a trop de temps?
Bien. Je crois qu'on ne peut pas refuser à tel ou tel camp de donner sa position ou de dire non au dialogue ou de dire oui. Mais l'essentiel pour le moment, c'est de trouver une issue, de reconnaître d'abord que tel a donné telle position, que faut-il faire? La reconnaissance mutuelle permettra à tous les camps de trouver un compromis avant la tenue du dialogue. Puisque si on tient seulement à organiser ce dialogue-là, en tout cas, on ne va pas aboutir. Et puis, je voudrais revenir sur ce que l'invité a dit. Il a fait un état des lieux succinctement, j'ai aimé ça, mais j'attendais de lui la question du refus du calendrier qui a été publié par la CENI. Parce que quelque part, il a accusé la CENI. Bon, je ne défends pas la CENI, mais il pouvait quand même révéler que l'opposition avait contesté le calendrier électoral global. C'est pourquoi nous sommes arrivés à de telles situations aussi. Hein, il ne faut pas échapper.
Voilà, merci beaucoup, Maître Trésor. Vous avez évoqué la versatilité qui caractérise les hommes politiques de l'RDC et aussi la question de la résolution 2277. Vous estimez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs interprétations de cette résolution et vous craignez que vous puissiez vous aussi tomber dans cette mauvaise interprétation, mais du moins, vous reconnaissez que nulle part dans le dialogue. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba ou dans cette résolution, on parle de la convocation par la communauté internationale de ces fameux dialogues. Et vous avez tout de même reconnu qu'effectivement, il y a eu des problèmes qui, en fait, sont à mettre dans la responsabilité de l'opposition. Et surtout, si nous évoquons le refus aujourd'hui du calendrier partiel d'abord, le calendrier global par la suite, et qui a été refusé, en tout cas, par l'opposition en son temps, ça pouvait peut-être aider à gagner du temps. Merci beaucoup, Maître Trésor. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. Yannoubé. Bonjour à M. l'invité.
Vous avez la parole, Maître Omar. Quel est votre avis?
Merci beaucoup, Julien, pour le verbe temps pour m'adresser. D'abord, je tiens à féliciter la radio Kati qui a organisé le vendredi passé l'émission sur le changement des mentalités. Je pense qu'il n'y a pas de leadership responsable et pas de citoyenneté responsable. Nous avons affaire à des hommes politiques, je soutiens mon prédécesseur, je vois les termes immatures, les mêmes qui ont demandé de vrais dialogues, les mêmes qui ont refusé les concertations, les mêmes qui ont encore refusé les dialogues, les mêmes après avoir été en cheval qui a fait encore les dialogues. C'est une constance, n'est pas un modèle pour nous qui sommes jeunes et qui aspirons à la politique, on doit se le dire. Aujourd'hui, on parle du blocage du dialogue hier. On ne doit pas se voir la face. Avant de proposer ma solution pour développer cette chose, il faut d'abord savoir qui est à la base de ces blocages. Quand je pense que le blocage a une seule réponse, c'est l'immaturité de l'homme politique congolais. C'est de l'opposition et de la majorité. Et aujourd'hui, on parle du calendrier électoral qui doit être affiché avant le dialogue. Souvenez-vous, lors d'un congrès de l'opposition, M. Martin Fayet était présent. Le communiqué final a été lu par M. Bongongo qui était celui de l'IFC. Ils ont exigé à ce qu'on puisse enrôler le nouveau majeur, ils ont exigé à ce qu'on puisse réadapter le fichier électoral, ils ont même exigé les renforcements électoraux. Lorsqu'on a essayé de proposer un calendrier, ils ont refusé. Ils sont quelque part responsables des sélections de la CENI. On évite aujourd'hui l'opposition politique, mais les détenus politiques doivent être libérés. Dire, le pouvoir politique n'est pas un super-homme. Parmi les gens que M. Martin Fayet a cité, il y a des violeurs. Nous nous connaissons, on vit à qui ici. Lorsqu'on arrête quelqu'un parce qu'il est opposant, c'est un mouvement de force politique. On doit dépassionner les choses. Qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition, on est avant tout citoyen. Et lorsqu'on enfreint les lois du pays, il ne faut pas brandir son statut pour dire je suis opposant. Récemment, M. Fayet ne payait pas les impôts dans son bâtiment. Et lorsqu'on a voulu l'interpeller, il a créé parce qu'il est opposant. On doit changer nos mentalités. Troisième chose, on parle aujourd'hui de l'ordonnance du chef de l'État qui ne doit pas convoquer le dialogue. Mais je demande si c'est l'idée des partis politiques d'opposition des conseils juridiques. La résolution est un acte international et en droit, et d'ailleurs élémentaire, ce sont les organes internes de chaque État qui doivent mettre en place l'espace ce qui a été décidé. On dit ça à la terre par Kassouk et à Rwanda. Les accords internationaux sont respectés de bonne foi. Et sur le plan juridique, une résolution internationale doit être exécutée par un organe local, à savoir le minoret et le chef de l'État.
Mais au nom de quel droit ils doivent nous demander que la communauté puisse prendre un acte pour payer de l'homme? Nous sommes dans quel pays en plein XXIe siècle? Il y a quelque part aussi la majorité qui est responsable. Ils doivent être conscients, reconnaître devant la nation que si nous n'avons pas pu organiser les élections en temps, c'est nous qui n'avons pas pu débloquer là. Ce n'est pas l'argent qui manque. Donc nous avons affaire hier à l'immaturité des hommes politiques. Alors comme vous l'avez dit, et comme l'a dit le prédécesseur, nulle part dans l'accord cadre, on dit que c'est la communauté qui doit provoquer le dialogue. C'est tout où. D'ailleurs, le dialogue n'est pas une recommandation obligatoire, c'est un encouragement. On dit que les Nations Unies encouragent les États dans lesquels il n'y a pas encore fait ce cas de faire le dialogue.
Maître Omar, est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui on se retrouve en face de partis qui sont concernés dans ces conflits ou dans ces blocages? Vous l'avez dit, il y a d'une part la majorité, de l'autre côté il y a l'opposition. Est-ce que vous n'estimez pas que la crainte des uns ou ce que redoutent les uns ou les autres se justifie dans la mesure où on s'est dit, bon, on se regarde dans cette défaillance, il faut un arbitre neutre?
Bien sûr que oui, là je vous dis que c'est pas de l'arbitre neutre. Lui, de cause aussi aujourd'hui des retards du dialogue qui mettait d'un côté. Vous avez dit la crainte est que les deux avis partagés divergents nous mettent dans une crise qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, relever. On parle de M. Benkoudou, qui est d'ailleurs reconnu par l'Union africaine, et qui est reconnu par les groupes de soutien. Qui est le plus important, ce n'est pas les facilitateurs, faire une annonce. Le plus important, c'est que les Congolais puissent parler. Et vous l'avez dit, je suis par là. Ces désaccords persistants, qui n'est pas dû à l'intérêt de l'État, mais aux intérêts partisans, sont en train de bloquer la nation. Nous devons être conscients et avoir la réalité en face. Il y a eu des problèmes sérieux. Ce n'est pas le moment de dire qu'il y a quelque chose. Il y a un problème qui bloque la nation. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'alors, et qu'il n'y a pas d'élection le 20 décembre, il y a une crise qui se pose. M. Fortin, M. Martin Fayoulou, M. Tamer et les autres, vous avez déjà gagné vos vies. Les chefs doivent vivre. Lorsque vous demandez aux gens de sortir à la rue pour faire les deux autres, vous pensez que c'est la meilleure solution? Non. La meilleure solution doit être pacifique. Nous sommes conscients que le gouvernement a échoué. Mais ça ne passe pas par les deux autres, c'est ce que vous voulez.
Mais est-ce que le problème aujourd'hui, Maître Omar, le problème, c'est le respect de la Constitution ou bien c'est le tourisme, en tout cas, passez-moi aussi les termes, que nous observons du côté des hommes politiques que vous avez qualifiés de l'inconstance. Est-ce que c'est le manque de respect de la Constitution qui divise?
Oui, je n'ai pas compris la question.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le manque de respect de la Constitution qui divise les politiques ou bien c'est un autre problème? Parce que si jamais la majorité acceptait d'aller aux élections, disons, de se prononcer clairement pour dire, bon, voilà, nous allons respecter la Constitution en proposant tel qui pourrait peut-être succéder au chef de l'État, l'opposition mettait aussi un peu de vin, de l'eau dans leur vin pour dire, bon, voilà, il y a des prisonniers qui ont été légalement arrêtés, qui sont des opposants, mais on ne doit pas mélanger les choses, qu'on y aille, je crois que ça pourrait résoudre quand même les problèmes.
Oui, hier. Donc la solution, comme vous l'avez dit, passe par la dépassion. On doit dépassionner les débats, on doit avoir la réalité en face. L'intelligence, c'est aussi la capacité de s'adapter aux situations politiques de l'heure. Qu'est-ce que je dis par là? Il y a un problème qui se pose. Il faut que la majorité des affaires, même si ce sont des conditions que je qualifie de banales, mais il faut quand même le prendre. Notamment libérer les détenus qu'on qualifie entre guillemets de politiques, et faire ce que les autres veulent, même s'il faut changer l'arbitre, pas plus. Mais ce qui est suprême, c'est l'intérêt suprême de l'État. Du côté de l'opposition aussi, il faut qu'on arrive à dépassionner aussi les choses. Ce n'est pas un ange qui viendra faciliter les choses, ce n'est
pas n'importe qui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Maître Omar. Alain, vous êtes à Polésie. Bonjour, Alain. Alain, on a des petits soucis avec votre ligne, le temps que cela s'améliore. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Canada.
Voilà, Omar propose que les politiciens puissent dépassionner un peu ces débats, parce que si on doit chercher des solutions pouvant débloquer, décrypter donc la situation politique, il faudrait quand même qu'on puisse élever un peu le niveau du débat, que chacun puisse voir la réalité en face.
Oui, je suis d'accord avec Omar, parce que tous ces politiciens-là, ils savent qu'on va au dialogue à propos pour les élections de cette année 2016. C'est les élections de 2016. Ils le savent, tout ce qu'il y en aura plus. Mais des élections peut-être qui viendront plus tard. Mais aujourd'hui, ils savent tous ce qu'ils vont là-bas pour la transition et comment ils doivent gérer la transition. Et c'est au dialogue qu'on va trouver des solutions. Mais dans leur médiocrité, ils sont en train de tromper le peuple disant non, voilà, on doit aller aux élections, il faut qu'on fasse vite pour le dialogue parce qu'on doit aller aux élections. Mais c'est pas vrai. Mais ce qu'il faut leur demander, c'est ce que Omar a dit, c'est de mettre un peu d'eau dans leur vin, parce qu'ils ne peuvent pas prendre tout un peuple et toute la République en otage à cause de leurs intérêts égoïstes. Vous comprenez que le président de la République lui-même, en annonçant la tenue de ce dialogue, il a dit que nous devons aller au dialogue et quand nous sortirons de ce dialogue, nous serons plus unis qu'avant. C'est-à-dire qu'il a un plan, qu'il a un projet pour ce pays. Mais pourquoi on l'empêche de faire cela? Les conditions que les préalables que l'opposition pose, c'est vrai qu'on ne peut pas accepter des choses comme par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne convoquer le dialogue et il ne faut pas aller à ce dialogue-là qui est convoqué par le président de la République. Et ça, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est sérieux, c'est que l'opposition demande la libération des prisonniers politiques, l'ouverture de l'espace médiatique et l'ouverture des chaînes de l'opposition qui ont été fermées. Mais ça, c'est logique. Mais comment on peut trouver encore d'autres oppositions qui trouvent que non, ils doivent aller vite au dialogue parce qu'ils savent que ça va aboutir par les partages des gâteaux et qu'on laisse les autres qui n'ont rien fait qu'à cause de leurs opinions sont en prison. Et c'est ça la cacophonie dans l'opposition congolaise, et c'est ça la médiocrité dans la classe politique congolaise. C'est de la majorité qui sont en train de dire des choses de ce genre-là. Ah non, on ne doit pas libérer, on ne doit pas faire cela. Ils ont leurs intérêts personnels. C'est pas Kabila qui trouve son compte à avoir des gens en prison à cause de leurs opinions politiques, parce que s'il cherchait à régler des comptes à l'opposition, il n'aurait pas tendu la main au grand opposant qui est Tshisekedi. S'il a tendu la main à Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il a tendu la main à la vraie opposition. Donc il veut que les gens se mettent ensemble, il veut l'unité, il veut la réconciliation. Et l'accord cadre, la résolution 2277 qu'on est en train de proclamer tous là, résolution 2277. Mais ça nous demande que la réconciliation nationale. Mais comment on peut faire la réconciliation nationale avec tous ces problèmes de prisonniers politiques, de médias fermés, de l'espace médiatique qu'on n'ouvre pas à tout le monde? Nous sommes des préalables qu'on devrait éponger et puis aller au dialogue et sortir unis pour l'intérêt général de la République.
Voilà, merci beaucoup Félicien. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Nous avons dans ce studio l'honorable Martin Fayoulou, le président de l'ECID, qui est notre invité. Après avoir suivi les uns les autres, honorable, c'est vrai, il se dégage quand même de manière un peu générale l'idée de l'immaturité politique aujourd'hui et aussi la passion qui entoure les débats politiques actuellement. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotions en lieu et place de voir les choses, disons, de voir la réalité des choses, pour finalement donner la chance à l'aboutissement heureux de ce processus électoral.
Mais j'y ai totalement d'accord, mais l'immaturité politique, c'est dans les chefs de qui? Je demande aussi à la population.
L'opposition qui a commencé par rebuffer,
électorales. S'il vous plaît, je vais démontrer ça. Commençons par les dialogues intercongolais. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est dit dans l'exposé des motifs de notre constitution, la constitution du 18 février? depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RDC est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Mais pour résoudre cette question, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. L'humanité, c'est dans les chefs des gens qui ne veulent pas respecter la constitution. Notre ami Maître Trésor l'a très bien dit, et je le félicite au passage pour sa connaissance de la situation congolaise. Mais quand Maître Trésor Likosa dit que nous avons refusé le calendrier global du 16 février, non, nous avons fait, nous, au niveau de la dynamique de l'opposition, un communiqué le 27 février. Moins de deux semaines après la publication du calendrier. Nous avons dit que ce calendrier-là était surchargé. Surchargé. Que ce calendrier était surchargé intentionnellement sur le plan des opérations et sur le plan financier. On demandait plus d'un milliard de dollars pour faire les
élections. Après avoir déjà refusé le calendrier partiel.
Oui, bien sûr. Nous avons vision un calendrier global. Et nous avons dit que ce calendrier à des acquis. Nous avons noté des acquis majeurs. Et nous avons dit notamment l'organisation des élections provinciales et l'organisation de l'élection présidentielle et les élections législatives nationales le 27 novembre 2016, la publication des résultats le 8 décembre et la prestation des serments le 20 décembre 2016. C'était, et nous l'avons dit, nous avons dit que c'était des acquis et nous avons demandé, parce que nous avons fait des propositions comme nos amis sont en train de le faire. Nous avons fait des propositions en disant que nous demandons à la CENI d'arrêter avec l'idée des élections locales aujourd'hui. Ces élections, on va les reprendre plus tard parce que ça n'a jamais été organisé. Nous savons que c'est important, mais respectons la Constitution. Parce que l'article 73 dit clairement, et c'est impératif, que 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice, qu'il soit convoqué l'électorat. Donc, nous l'avons dit. Donc, quand il dit que l'humanité, nous nous sommes constants. Et nous avons fait des propositions, nous sommes allés plus loin. Nous avons vu au mois de février dernier, M. Nanga de la CENI, il nous a dit, écoutez, qu'est-ce faut-il faire ? Nous lui avons dit, nous allons vous faire des propositions. Et nous avons fait des propositions concrètes, dans un mémorandum. Il nous a dit, oui, mes frères, mes sœurs, c'est possible de tenir, d'organiser les élections dans les délais, si on fait comme en 2006. Il y a des hélicoptères, il y a des moyens humains, il y a des moyens financiers. Nous avons dit, nous allons vous faire une proposition ou des propositions. On lui a envoyé un mémorandum en disant, arrêtez avec les élections des gouverneurs de province. C'est inutile. Arrêtez avec les locales. Allons-y droit pour l'élection présidentielle et l'élection, les élections législatives nationales. Donc, exécutez la deuxième partie de votre calendrier global. C'est ça, parce que la première partie, vous nous donnez raison, c'était impossible de l'organiser, et vous voyez-vous, donc, et là,
la majorité insiste que cette fois-ci, qu'on puisse aussi vider les comptabilités électoraux, pardon, les arriérés électoraux, notamment avec le retard accusé pour les sénateurs. Les sénateurs, jusqu'à quand
on va vider quoi? Il faut d'abord commencer par ce qui est imposé par la Constitution. N'oubliez pas cet article 73, c'est la clé de tout. N'oubliez pas, si on remonte, on va aller aux élections locales. Vous allez faire combien de temps? Nous devons organiser les élections locales. Mais pour l'instant, que les 19, nous avons une échéance. Le 19 décembre,
mais il y a la fin du mandat. Omar qui vous a demandé de dépassionner quand même les débats.
Mais bien sûr, c'est dépassionner les débats. Je ne comprends pas nos amis. Parce que je vais
résumer la politique. Il y a beaucoup d'émotions.
Non, il n'y a pas de. Non, il y a des émotions parce que les gens veulent mettre de l'émotion. Il y a une seule chose. quand notre ami dit que le dialogue ne doit pas être convoqué par un étranger, mais qui a dit que le dialogue doit être convoqué par un étranger? Je suis d'accord avec eux.
Donc, votre insistance d'un panel de facilitateurs.
Monsieur Lungin, le problème, l'assistance des panels, la conférence nationale a été présidée par les cardinal Mosengo. Il n'y a pas de problème. Si un homme
président... d'abord les résultats, en 90, il y a eu le palais de marbre 1, le palais de marbre 2,
bien sûr.
Il y a eu beaucoup de trucs qui ont d'ailleurs occasionné le pillage des 91-93, des tristes mémoires dont on n'aimerait pas qu'on en arrive là.
Oui.
Mobutu campait sous sa position, il ne voulait pas notamment mettre en pratique les recommandations de la conférence nationale que vous venez d'évoquer. L'opposition qui, à cette époque-là, toujours dirigeait par Tshisekedi, qui se réclamait d'ailleurs la primature, campait aussi sur sa position, et nous connaissons tous les résultats. Aujourd'hui, nous redoutons la même chose.
Mais c'est ça, les pouvoirs en place. Et à chaque fois que les pouvoirs en place veulent se camponner au pouvoir, agit de la sorte, et on reprend et on recommence. C'est la même chose, nous sommes d'accord, ce que vous dites. Mais quand notre ami, par exemple, pourquoi nous récusons Edem Kodjo? Quand Maître Omar parle du comité préparatoire, Monsieur Kodjo, le 26 juillet, a publié un communiqué disant que le comité préparatoire n'avait rien à faire. Le comité préparatoire, c'était pour des questions matérielles, des questions logistiques. Paragraphe 3 de son texte. Paragraphe 6, il dit que le comité préparatoire, ils sont en train de préparer la facilitation, à préparer un document, on remettra à chacun, au cours du comité préparatoire, on va commencer à amender. Amender sur la logistique, sur l'organisation matérielle, ou sur le point à discuter. Vous voyez que M. Kodjo a un problème. Je crois que c'est les problèmes. Et pourquoi on veut le maintenir à tout prix? Mais je vais passer. Alors, j'ai répondu sur la question du refus du calendrier de la semaine. Nous avons fait des propositions concrètes. Il faut que la population, parce que vous ici, à Radio Capi, vous faites un travail énorme. Et nous passons ici pour expliquer. Il faut que les gens aussi puissent avoir ça. C'est didactique, c'est pédagogique. Il faut que les gens puissent avoir ça en tête pour prendre des positions correctes. Alors, quand nous avons rencontré M. Naga, nous lui avons fait une proposition concrète, et cette proposition, ces mémos que nous avons aussi remis au secrétaire général des Nations Unies, nous avons dit, la CENI a besoin de moyens, moyens financiers, moyens logistiques, moyens en homme, donc faites ça et on peut organiser les élections à temps utile. Mais c'est, nous sommes au mois de février quand on a rencontré M. Nanga. Nous sommes au mois de mars quand nous avons rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Alors, et là, nous sommes au mois d'août.
Alors, pour vous aider, d'ailleurs, le passage de Corneille Nanga, président de la CENI, au mois de mai, nous avons eu à le recevoir, après d'ailleurs ces deux rencontres que vous avez organisées avec lui, le président de la CENI nous a dit ceci. En tout cas, je me rappelle de cela, qu'il y a des indications claires qui poussent à espérer un aboutissement du processus électoral de manière à respecter la Constitution. 1. La CENI a démarré avec ses opérations. Normalement, voilà. Il avait promis de démarrer avec les opérations au mois de juillet. Et aussi, la communauté internationale qui a donné, en tout cas, son quitus en ce qui concerne les garanties d'appui logistique. Alors, ce sont des indications claires. C'est pour ça qu'il appelait. Mais il restait les indications politiques. C'est là où il a dit les indications politiques. Il attend de vous. La majorité, l'opposition.
Non, il n'a pas nulle part, on lui dit qu'il y a des indications politiques. Lui, il est une institution de la République reconnue dans la Constitution. Quelle indication politique attend-il?
Des dialogues.
Mais non, mais le dialogue est prévu où? C'est comme les gens. Et quelqu'un a dit que l'accord cadre ne prévoyait pas les dialogues. Oui, il n'y a pas de dialogue dans l'accord cadre. Mais le dialogue, c'est une chose qui est arrivée parce que les gens
ont une crise. Non. Mais là, il faut se parler de palabres africains.
Tout à fait, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est la bonne volonté. Et notre ami Omar a dit que la meilleure solution doit être le pacifique. Et vous lui avez répondu indirectement. Mais pacifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que respecter la Constitution. Et quand vous regardez la chaîne Val, notre acte d'engagement. Le premier engagement, c'est notre attachement indéfectible à la Constitution et à son strict respect. C'est ça. Vous ne pouvez pas aller loin. Et Maître Omar va plus loin. Il dit que M. Fayoulou ne payait pas les impôts. Je lui demande simplement d'aller voir, parce que nous sommes devant les tribunaux dans cette affaire. Et le monsieur de l'hôtel de ville et de la DGK ne disent plus que Fayoulou ne paye pas les impôts. Il paye les impôts, mais il a minoré les loyers. Alors, c'est un débat. Si vous lui donnez mon numéro, où il peut aller, au presse, pour savoir ce qu'il y a là. Alors, si on suit les gens politiquement pour les empêcher de travailler correctement, je paye mes impôts et je suis en ordre. Donc,
voilà, on va revenir à vous.
Parce que il y a d'autres questions que je n'ai pas répondu.
Oui, vous allez revenir, c'est temps de prendre les trois qui nous ont rejoints. Mm-hmm. Comme ça, on peut balayer ce qui reste, voilà, des arriérés de préoccupations. Mm-hmm. Alors, Arsène est à Kikwit, Junior Al-Mbashi, Séraphin Ouvira. Vous êtes nombreux, en tout cas, le téléphone est prêt à exploser. Nous n'allons pas vous prendre tous, vous connaissez bien le principe de cette émission. On propose une quinzaine ou une vingtaine, mais vous êtes nombreux et le débat se poursuit d'ailleurs sur notre page Facebook. Prenez le temps de discuter également sur notre page Facebook 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Tapissoir.
Alors nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bienvenue Arsène. Arsène, vous êtes avec nous ?
La radio Capi, à M. Fayoulou en particulier.
Quel est votre avis après avoir suivi les uns les autres et ainsi que notre invité ?
Ok, mon avis est simple. La classe politique veut prendre la population congolaise en otage. Les problèmes qui sont là, ce ne sont pas les problèmes congolais, ce sont les problèmes des acteurs politiques congolais. La constitution est claire. Si vous ne savez pas lire l'article, lire pratiquement, je voulais dire, organiser les élections, mais l'article 74, l'article 75 est là, tout ça c'est complète. Et pour aller atteindre l'article 220, pourquoi nous discutons ? Qui va apprendre cette élection qui est constitutionnelle, qui est l'article 75, c'est une élection qu'il a échoué avec le 73. Il prend l'article 75, c'est une élection que les Congolais ont fait le même sang pour ça. Je ne veux pas entrer en détail, mais je dis en tout cas.
Pour décrypter cette crise, il faudrait simplement respecter la Constitution.
Exactement, il faut respecter la Constitution. On a voulu lire la Constitution partiellement selon les intérêts des uns et des autres. Mais quand il faut faire la lecture complète de la Constitution, vous verrez que
il faut non plus oublier que nous tombons parfois aussi dans les cas de jurisprudence. Si nous rentrons en 2006, lorsque il y a eu des problèmes tout au long du processus électoral, la CI à cette époque avait aussi demandé en fait une extension du délai pour finalement organiser le deuxième tour. Alors donc je crois que nous tombons là dans cette scène politique, dans ces cas de jurisprudence. Et aujourd'hui, tacitement, on a l'impression que la CENI veut demander ça aussi. Donc je crois qu'en droit, ça ne poserait pas un problème.
Excusez-moi, Julien. Je crois que l'élection de deuxième tour ne peut pas prendre. La CENI ne veut pas prendre ça comme raison. Je suis dit, M. Nanga, quand il disait ça, malheureusement, je n'avais pas eu le temps de répliquer. On ne peut pas prendre ça comme raison. Nous avons la Constitution. On n'a même pas organisé le premier tour. Comment est-ce qu'on va prendre en référence une erreur de la CENI de... On ne peut pas prendre comme exemple une erreur.
Merci beaucoup, Arsène. Junior, vous êtes à l'Oumbashi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Junior. C'est Junior, Camille, depuis l'Oumbashi.
Alors, qu'est-ce qui bloque pour vous et quelle est la solution ?
Ce qui bloque, c'est que M. Kabila se prononce. Le président Kabila a la clé de cette crise. Il peut détester la situation, même aujourd'hui, là, même à cette minute même. Il est président de la République depuis 2015, il a été voté pour 5 ans. il a fait le premier mandat, le deuxième mandat c'était lui, le leader des femmes, qui disent tout le temps, non, je ne serai pas candidat, je ne serai pas président en 2000. C'est tout, la situation sera de quitter, on va voir comment évoluer cette
chose. Merci beaucoup. Bon,
aujourd'hui, là, il y en a qui sont, allés. Donc, se mettre tout de suite à devant le budget. Maintenant, on leur avait dit de se mettre ensemble en deux mains pour battre M. Cabinet de l'élection. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Carmel est allé donc, de son côté, celui-ci. Et aujourd'hui, elle veut nous faire voir qu'ils sont ensemble et qu'il y a une seule unité. L'unité, c'est pour qui s'approfite à dire. Hein? Ils vont aller au dialogue pour se partager le cadeau, le gâteau, pour que les enfants qui sont en train de se poser aujourd'hui, vous vous imaginez, l'année passée, il y avait 3000 licenciés à l'université de Lubumbashi, c'est notre travail. Ils vont aller là dans ce dialogue-là pour que les enfants trouvent du travail, puis qu'ils aillent en Europe et faire des choses. Au moins, nous sommes en train de se faire ici. Je ne suis pas d'accord avec eux.
Merci beaucoup. Alors, pour vous, les responsabilités sont partagées. D'une part, il y a ce que vous appelez le discours du chef de l'État qui pourrait décrypter la situation, c'est-à-dire se prononcer quant à sa position par rapport à la Constitution. Bon, je crois que nous n'allons pas y revenir, et par plusieurs fois nous sommes revenus sur ça pour dire que c'est vrai, on ne peut pas obliger à quelqu'un de se prononcer, d'autant plus que le mandat est là, donc on ne peut pas, les problèmes ne se posent pas. Voilà, merci beaucoup, Junior. Séraphin, vous êtes à Ouvira. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quel est votre avis, Séraphin?
Oui, effectivement, je voudrais d'abord répondre aux propos de notre prédécesseur, parce qu'il y a un propos là, ou certains propos qui m'a fait un peu ébahi, parce qu'ils ont dit que l'opposition politique démocratique du Congo avait rejeté les calendriers électoraux actuels. Parce que j'appelle attention sur les calendriers qui étaient encore en cours, parce que jusque-là, ils n'étaient pas encore remplacés. Mais l'opposition en général n'a pas rejeté ces calendriers. Plutôt, elle avait critiqué ces calendriers. Donc, négatif, là, si on dit que c'est négativement, mais l'opposition n'a pas rejeté. Enfin, je m'en vais comprendre, parce que l'opposition avait aussi déposé la liste des candidatures de leurs membres aux législatives provinciales. Ça, je voulais juste pour mettre mes questions là-dessus. Et deuxième des choses, c'est que je me crois aussi à parler. Je me crois encore demander à Marcel Fayoulou, qui est l'opposant que j'apprécie beaucoup, de mettre tête de l'eau dans les vins. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois pas déjà que l'opposition politique commence, notamment le rassemblement, commence à jouer dans la défensive. Pourquoi je dis qu'elle joue dans la défensive? Parce qu'au préalable, vous savez que la majorité présidentielle est à créer des multiples de stratégies pour se maintenir au pouvoir. La première stratégie était de conditionner les élections au recensement. Et l'opposition, comme elle joue aussi à l'offensive, elle a déjoué cette stratégie. Et la deuxième stratégie pour la majorité, c'était le gel du temps. Donc aujourd'hui, maintenant, l'opposition va se rattraper dans cette deuxième stratégie. Donc l'opposition, de l'autre, la majorité, dit que non, doit être le gel du temps. Et l'opposition, à ce moment-là, dit qu'elle ne peut pas accepter d'y aller, avec des préalables, pour d'y aller, mais au moins nous avons des préalables. Ça aussi, c'est accompagner la majorité de cette stratégie. L'opposition devait faire ceci pour moi comme conseil. C'est que l'opposition devait faire, accepter d'abord d'y aller parce que mettre ce gars-là devant les faits accomplis. Accepter d'y aller. Et avec les préalables qui sont toujours là, mais vous donnez l'ultimatum, dès que nous arrivons au sujet, dès que nous arrivons au dialogue, et deux ou trois jours, nos problèmes ne sont pas encore résolus, ils vont nous retirer facilement. Il faut qu'on cesse de faire avancer les choses. Parce que dès lors que l'opposition tape à sa position, et que la majorité qui a fait des stratégies de geler l'État, et la majorité qui en profite maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je me souviens, j'avais suivi le président de la tenue dans votre émission, elle avait dit clairement qu'il y avait trois contraintes. La première contrainte, vous avez eu aussi à plus sur le journaliste, la première contrainte était financière, la deuxième logistique, la troisième, là c'est politique. Et la première contrainte, la deuxième contrainte a été résolue selon le programme de la tenue. Elle a été déjà résolue. Mais la première contrainte est toujours sur les dialogues. Alors, pour que ce genre-là, débat le fait accompli, acceptons-nous avec nos préalables qui jouent. Et avec
voilà, merci beaucoup, c'est Raphaël. Merci beaucoup, c'est Raphaël. Alors, David, vous gardez la ligne, honorable Marcel Fayoulou. Voilà, on retient quand même qu'il y a des propositions aussi qui sont faites pour, en fait, contourner cette contrainte de temps. La population demande à l'opposition d'aller quand même, et on se ramène parce qu'en négociation, on ne peut pas tout avoir à la fois. Vous avez demandé la libération des prisonniers, on a libéré certains, Lucha par exemple, les gens sont déjà dehors, voilà. Voilà, il y a eu l'ordonnance de grâce de certains prisonniers, bon, voilà, donc certains membres de Lucha ont profité. Alors, tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas aller et aussi faire le suivi de ces préalables?
JR, la lutte n'a pas profité. Fred Baou Mayou, Yves Makwamba Layou, donc non, on ne peut pas
le faire, parce que les gens ont aussi une mémoire courte. Les amis qui sont allés aux concertations nationales, ils ont dit, nous y allons et nous allons voir. Ils sont allés, ils ont vu, il y en a qui sont sortis, et ceux qui sont sortis, les autres ont continué, ils ont publié les 700, plus ou moins 700 résolutions, où en sommes-nous? Non! Les amis, Omar, Maître Omar avait posé une question. Il avait dit, qui est à la base du blocage? On lui a répondu, ceux qui sont à la base du blocage, ce sont ceux qui ne respectent pas la Constitution. Respectons la Constitution et on n'aura pas de problème. Notre ami Séraphin, et il est très clair, il dit que l'opposition n'a pas registré les calendriers. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent. Mais quand il parle du gel du temps, mais qui gèle le temps? Nous allons aller là-bas, et puis après, vous dites que nous ne sommes pas d'accord et nous sortons, on va vous prendre pour des gens pas sérieux. Il faut régler tous les problèmes. Étant donné que le seul problème qui se pose ici, c'est le non-respect
de la Constitution. Si jamais cette divergence persistait jusqu'à la fin du mois de septembre.
Ben oui, mais la solution est là. Mais la solution, c'est la Constitution, je vais revenir. Mais notre ami Félicien disait que...
Oui, rapidement, monsieur, parce qu'on a plus assez de temps, on comprend déjà.
Que M. Kabila avait un plan. Mais quel plan? Il est là depuis. M. Kabila, c'est lui le problème. Quand il dit à Ouganda qu'on aura les calendriers seulement lorsque on aura publié les résultats de l'enrôlement.
Moi, je crois que je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État, mais moi, je comprends qu'en relation avec les contraintes techniques évoquées par la CENI, voilà que...
Mais, bon, voilà, mais ce n'est pas à lui d'instrumentaliser la CENI, ce n'est pas à lui de donner la direction, ce n'est pas lui, c'est lui le problème.
Parce qu'il y a des contraintes techniques, quand même, vous reconnaissez.
Mais quelles contraintes techniques? Dites-nous. Lesquels? Il n'y a pas de contrat
juridique.
Non, vous avez dit que c'est réglé, l'argent, et puis les moyens, il y a les partenaires internationaux.
En conclusion, on va le
faire. Non, mais la contrainte, et là, c'est la volonté. Il n'existe pas de volonté de la part de M. Kabila. Il estime qu'il a pris le pouvoir par la force, que la Constitution, voilà, c'est un moyen pour se maintenir au pouvoir, ou les élections.
Ce ne sont des intentions.
Ce ne sont pas des intentions.
En conclusion, la règle aujourd'hui, c'est possible de débloquer décrypter la situation.
Mais bien sûr, respecter la Constitution, parce que nous avons dit l'article 64. Le 19, M. Kabila doit partir. Et les préavis qui ont été donnés,
qui sont donnés, les motions qui entourent ces débats.
Où est l'émotion quand la Constitution dit que le mandat se termine telle date et qu'à telle date, il faut convoquer les
voilà. On aura bien pas d'émotion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le président de l'ECIDE et tous les auditeurs vous ont, ont eu l'occasion de partager cet échange citoyen avec vous. Merci et à très bientôt encore pour un autre débat. Nous profitons également pour dire merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. On ne se quitte pas sans pourtant dire merci à Hippolyte Kapanga qui a assuré la mise en onde de cette émission, aux côtés des Pierrot et la Belgique qui l'a réalisé et en même temps assuré le standard sous la coordination et la présentation de J.R. Lou Ngembo, disons avec Martin Tobijangé, supervision. Merci, à très bientôt.